Le micro a doublement le caractère d'une écriture. Il a le caractère d'une écriture littéraire. Il est aussi celui qui écrit l'histoire, pour prendre le titre d'une émission.
Le rayonnement de la pensée française décline-t-il ?
French bashing. Sport de combat ancestral, inventé par les anglo-saxons pour taper sur les Français. Individu glandeur, gréviste, efféminé, lâche, infidèle, séducteur, intello.
Ah, le French bashing, on va tenter de le dire en version originale et en version française. Le French bashing consiste à battre si fort les tapis, made in France, pardon, fabriqués en France, que s'élève un nuage de poussière si haut qu'on se retrouve tous dans le brouillard. L'exercice s'applique évidemment à l'économie, notre industrie est siphonnée par la mondialisation. Quant à notre poids politique, il rejoindrait très vite notre poids démographique dans la population du globe, soit epsilon. Et notre influence intellectuelle, eh ben notre petit pays étant naturellement clérical et mélancolique, il pleure à chaudes larmes la fin des géants d'autrefois. Où sont les Jean-Paul Sartre et les grands généralistes qui savaient si bien critiquer presque tous les maux du monde ? On a vu un ancien président de notre Centre National du Livre prévenir, sourire en coin, bah oui, il va falloir s'y faire. Maintenant, notre meilleur produit d'exportation, c'est Michel Houellebecq. En réalité, il serait peut-être temps de calculer autrement. Le soft power, pardon, l'influence par capillarité, ne se mesure pas comme la compétitivité. Plutôt que les arbres les plus hauts, il faut considérer la forêt, la présence des étudiants, des enseignants, les réseaux d'échange, de transmission, ceux qui dépendent de l'action étatique si importante en France, mais de plus en plus les autres systèmes de sociabilité. Dès lors qu'on choisit de considérer l'abondance et plus seulement la rareté, notre point de vue peut changer.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Thomas Brisson, bonjour, vous allez nous le prouver.
Bonjour.
Alors, vous avez vous-même un itinéraire, vous avez appartenu à des réseaux, vous enseignez dans une université dont on parlait l'autre jour, Paris 8, où il y a combien de nationalités ?
150.
Bah, au moins.
Oui,
le miel de la Seine-Saint-Denis, c'est paraît-il le meilleur, parce que les abeilles butinent à des fenêtres derrière lesquelles on prépare 150 cuisines. Votre itinéraire vous amenait ?
En Égypte, au tout début, et puis après un petit passage par l'Allemagne et par la Chine au Japon.
Oui, parce que vous êtes allé pourquoi au Japon, par goût du Japon ?
Non, parce que comme beaucoup de jeunes chercheurs français, il n'y avait pas de position disponible en France, et donc je suis parti enseigner ailleurs.
L'importance des positions, des réseaux. Il est une somme qui vient de paraître au seuil et qu'il faut saluer, deux volumes dirigés par Laurent Jean-Pierre et Christophe Charles, qui insiste beaucoup sur ces questions-là plutôt que sur l'histoire des idées. Cette somme s'appelle « La vie intellectuelle en France ». Et vous avez été amené à presque clore le bal. La fin de partie, c'est avec vous.
On m'a demandé de le faire, en tout cas, donc je l'ai fait. C'est bon.
Vous étiez dans le bon réseau, peut-être. Et vous étudiez ce qui s'est passé dans les 50 dernières années pour le rayonnement des intellectuels ou de la pensée française. Enfin, j'emploie des grands mots, mais ce sont ceux que vous utilisez pour titrer votre chapitre quasi-final de la vie intellectuelle en France au seuil. C'est pas souvent que dans ce livre, on met des césures très précises. Mais pour étudier, on va d'abord parler du continent africain et du monde arabe, l'influence intellectuelle de la France dans cette zone, il y a une césure qui s'impose, il y a une date très précise, 62. C'est la fin de l'époque impériale et c'est l'époque du rebond international.
Oui, alors effectivement, c'est quelque chose qui nous intéressait avec Laurent Jean-Pierre et avec d'autres contributeurs. C'est quand on parle de la vie intellectuelle française, on a souvent tendance à adopter un point de vue qui est interne à la France en réalité. Hein, on voit les choses depuis Paris souvent. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qui se passe si on les voit depuis un autre point de vue? Et quel point de vue par exemple d'Alger? Quel point de vue des métropoles ou des villes africaines? Quel point de vue des intellectuels, des étudiants qui circulent entre l'ancien empire colonial et puis Paris? Et donc de ce point de vue-là, 1962, ça faisait sens comme une césure importante.
C'est la libération de l'influence. On n'est plus sous l'hypothèque de la guerre d'Algérie.
Alors, on n'est plus sous l'hypothèque de la guerre d'Algérie. Et précisément, en fait, ça rouvre autre chose. C'est-à-dire que cette influence française, dont on a dit pendant longtemps qu'elle était liée à un empire colonial, parce que cet empire pouvait y diffuser sa langue, sa culture, ses réseaux d'école. Mais nous, on fait, au contraire, le pari que la fin de la colonisation, ça veut dire aussi la fin d'un rapport asymétrique et inégalitaire, ça a permis de faire autre chose de la culture française.
Mais la culture française, exporté à l'étranger par tout un réseau étatique. Le général de Gaulle et ses hommes vont profiter de la libération de l'hypothèque pour donner un coup de fouet au réseau francophone.
C'est ça. Alors, il y a plusieurs réseaux. Il y a des réseaux qui sont pas du tout étatiques et on en parlera peut-être tout à l'heure. Il y a aussi des réseaux qui sont appuyés sur l'État français, sur ses relais à l'étranger. Hein. La France gaulliste, assez rapidement, décide de se retourner vers ses anciennes colonies, vers le monde arabe en particulier. Et pour ça, elle va mettre à la disposition de sa volonté politique un réseau ancien, une influence auprès des élites, une langue qui continue d'être parlée par un certain nombre de personnes sur place, et puis une culture qui a déjà un certain nombre de racines également sur place.
Ça concerne, dites-vous, les pays de l'ancien empire, les pays du Maghreb qui viennent d'être décolonisés pas très facilement, mais aussi bien un pays comme l'Égypte.
Un pays comme l'Égypte, mais où l'influence française est en fait ancienne, même si l'Égypte n'a pas été une colonie française ni un mandat français, puisque très rapidement, en réalité, les Égyptiens, qui ont été parmi les premiers à faire le voyage vers Paris, vers la France, dans les années 1820, bien ces Égyptiens se sont très rapidement tournés vers la culture française, dans laquelle ils ont vu déjà une sorte d'antidote à l'influence anglaise, et puis dans laquelle ils ont vu aussi une manière de construire une nation indépendante, puissante, riche et en tout cas ouverte sur l'extérieur.
C'est comme ça que le jeune Thomas Brisson a trouvé asile au Caire.
On peut dire ça si vous
dans voulez.
Dans un institut qui s'appelle le CEDEJ.
Qui n'est peut-être plus exactement ce qu'il était, faute de moyens, mais on n'est pas là pour se lamenter, n'est-ce pas, Thomas Brisson? C'est le principe de cette émission. Vous citiez le cas des étudiants, c'est extrêmement important ce qui se passe du côté des étudiants. Des contrats de coopération sont signés entre la France et les nouveaux pays d'Afrique francophone indépendant. Et voilà qu'en 63, dans un reportage pour l'ORTF, Françoise Dumayet est comme soulagée d'entendre ceci de la part d'un de ses interlocuteurs.
Avant de venir, les Français, pour eux, c'était tous des colonialistes, quoi, des colons.
C'est-à-dire
que des gens qui viennent chez nous pour nous prendre tout et sans rien laisser.
Oui.
Mais cette idée... on peut dire quand même qu'elle est fausse au départ parce qu'on ne peut pas juger toute la France partant de quelques individus qui sont partis à l'aventure.
Et alors maintenant, quelle est votre idée de la France?
Maintenant, quand je suis venu en France, j'ai vu que d'abord les gens mènent une vie individualiste qui est totalement différente de celle que nous menons en Afrique. Alors, parce qu'avant de venir, je ne savais pas que les gens étaient comme cela. Puis chacun rentre chez soi, on ferme la porte, on ne sort pas, on ne se dit pas bonjour. Alors, ce sont des choses qui m'ont frappé tout de suite, parce que chez nous, on ne peut pas dépasser une personne sans la saluer.
Et vous restez africain même en France?
Même en France, parce que même chez moi ici, je prépare mes repas, ma femme et mes enfants. Je m'asseye par terre sur des journaux et puis nous mangeons à la main. Oui. Ça, c'est pour ne pas perdre l'habitude de l'Afrique, c'est pour rester nous-mêmes, quoi.
Oui.
Nous avons pourtant des tables, j'ai tout un service, j'ai des fourchettes, des cuillères.
L'acclimatation tout de même, étant donné la qualité de l'hospitalité française, peut se faire. Vous prenez un exemple, ça a été plus qu'un exemple pour vous, un objet d'étude très longtemps. Les intellectuels arabes, installés volontairement ou non en France, demeurés après leurs études ou venus en exil... et qui ont fait un moment, c'est le titre d'un de vos livres, Thomas Brisson, de Paris, la capitale intellectuelle du monde arabe.
Oui, en fait, l'expression est d'Abdelrahman Monif, qui est un écrivain saoudien, mais c'est vrai qu'il y a, alors dans des temporalités qui sont un peu floues peut-être, mais il y a un moment où Paris se constitue comme l'une des capitales, en tout cas intellectuelles du monde arabe, et c'est une capitale un peu paradoxale parce qu'elle est excentrée évidemment par rapport aux frontières géographiques et politiques du monde arabe.
Évidemment, j'ouvre une parenthèse, mais on a dit qu'on ne parlait pas du présent lamentable. On est loin des polémiques actuelles sur le thème, est-ce qu'il faut enseigner l'arabe en France, puisque, nous dit tel ou tel député, c'est une langue communautaire.
Bien sûr, on ne va pas en parler, mais c'est vrai que si on regarde l'histoire, on s'aperçoit que l'arabe a été pendant très longtemps une langue qu'on a refusé d'enseigner en France.
Mais vous avez raison, on ne va pas en parler. Il est temps plutôt d'évoquer, puisque notre thème est le rayonnement de la pensée intellectuelle française, un autre moment que la césure de 62, le moment 2003, c'est le discours de Villepin devant l'Assemblée Générale des Nations Unies, ici pastiché dans un documentaire de Jean-Baptiste Perretier qui s'appelle, c'est la dernière fois que je prononce le mot, French Bashing.
I now call on the distinguished Minister of Foreign Affairs of France, His Excellency Mr. Dominique Galouzeau de Villepin.
Et c'est un vieux pays. La France d'un vieux continent comme le mien. L'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie, et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes. Fidèle à ses valeurs, il veut agir résolument avec tous les membres de la communauté internationale. Il croit en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur. Je vous remercie, monsieur le président.
Mais les intellectuels qui sont les truchements pour les Français dans le vaste monde vous le disent tout le temps. Il faut que la France ressemble à elle-même, c'est leur fonds de commerce, m'expliquerez-vous peut-être Thomas Brisson, pour qu'elle garde son influence.
Alors, on peut voir ça, on peut aussi voir en réalité le contraire, c'est-à-dire que si on porte le regard sur la période la plus récente, les intellectuels français qui se sont le plus exportés, entre guillemets, je suis désolé d'employer ce terme, hein, en tout cas ceux qui donnent lieu aux hybridations les plus riches, ce sont précisément des intellectuels critiques, hein, c'est-à-dire des gens qui, à mon sens, ne croient pas vraiment qu'il y a quelque chose comme une identité française.
Mais parlons pas d'identité française, mais parlons de l'universalisme français, c'est ça qui s'exportait, puisque vous utilisez ce mot.
Alors c'est ce qui s'est exporté et puis c'est aussi sa critique qui s'est exportée et c'est pour ça que c'est assez intéressant de prendre cet objet qui est l'influence française. C'est vrai qu'il y a, et en particulier adossé à des réseaux étatiques ou diplomatiques, il y a eu une influence culturelle française qui était, on va dire, adossée à une certaine lecture de Victor Hugo ou une certaine lecture d'Émile Zola, par exemple, et à travers laquelle on a dit qu'il y avait quelque chose d'universel chez Victor Hugo et Émile Zola, pourquoi pas. Et puis il y a eu une autre influence française, on parlait tout à l'heure de Foucault et de Bourdieu, on pourrait rajouter Deleuze, on pourrait rajouter Derrida, on pourrait rajouter beaucoup de monde, qui est une influence intellectuelle, où précisément on donne des armes, où on peut trouver des armes pour déconstruire cette action étatique et pour déconstruire les rapports de pouvoir qui jouent à travers.
Cette cohorte, on va la retrouver dans la deuxième partie de cette émission qui va être consacrée à l'influence intellectuelle française aux États-Unis, mais concédez quand même que c'est plus facile pour quelqu'un dans le vaste monde de se convertir à une culture universaliste, comme la culture française telle qu'elle s'est présentée traditionnellement, que pour vous de se convertir à la culture japonaise quand vous étiez au Japon, la culture japonaise qui ne l'est pas du tout.
C'est vrai que c'est un axiome qui marche sûrement très très bien. C'est plus facile de se convertir, comme vous dites, à une culture qui est ouverte, ou en tout cas qui se prétend ouverte, qu'à une culture qui ne souhaite pas l'être. Encore une fois, il me semble que paradoxalement, ce qui permet le plus facilement ces formes de conversion ou ces formes d'ouverture, ça a été des auteurs, des pensées, des références qui ont été des références critiques.
Oui, mais qui peuvent paraître abscons à certains. Je vous fais grâce d'un moment d'anti-intellectualisme, parce que c'est caractéristique aussi de la vie intellectuelle en France. Plus il y a de clercs, plus il y a d'anti-cléricaux. Charles Trenet, très tardif, hein, 92.
Ce sont des intellectuels qui se retrouvent dans des chapelles. Que se disent-ils, que se disent-elles? Des choses profondes. En discutant, ils se méfient de toutes les grandes philosophies, aucune vraiment ne leur suffit. Âme vagabonde, arrive la confusion des langues, l'évocation du Big Big Bang. Alors tout tourne dans ses tangues, enfin du monde. Le soir au fond de leur maison, sans trop savoir en quelle saison, tout en buvant une tisane, ils pensent qu'ils sont des ânes. Sont des intellectuels, il y en a partout en ribambelle, des vrais, des faux en parallèle, quel beau mélange. Mais dès que l'on monte dans leur barque, ce sont les faux que l'on remarque, déguisés parfois en énarques, pour donner le change. Et moi souvent je les confonds, mais que m'importe c'est profond, trop d'intellect ça me morfond, alors des ailes me soulève dans une chanson qui rêve à ma petite façon et plane pour vous loin des leçons des intellects. Tu es des intellects, tu es des
intellectuels.
Mais oui.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Avec Thomas Brisson, l'un des nombreux contributeurs de la vie intellectuelle en France, la somme en deux volumes que viennent de faire paraître les éditions du Seuil. On va parler maintenant de l'influence intellectuelle aux États-Unis, avec toujours le même laps de temps, les 50 dernières années. Le président du CNL, le Centre National du Livre, nommé par Nicolas Sarkozy, par ailleurs intellectuel lui-même de grande valeur, disait « c'est embêtant là, aux États-Unis, on a exporté les plus byzantins ». C'était intellectuel du CNL et lui-même spécialiste de l'histoire des chrétiens d'Orient. L'ancien ministre Xavier Darcos, qui a été nommé à la tête de l'Institut français par le même président de la République, la nouvelle structure de diffusion étatique de la culture française, disait « C'est embêtant, aux États-Unis, on en est encore resté à la traduction des sciences humaines des années 1980 ». Ben oui, sur le podium, il faut bien le dire, il y a ceux que vous avez cités, vous pouvez donner leur nom.
Et il me semble qu'il s'agit de Foucault, de Derrida et de Bourdieu.
Voilà. Voilà. Et n'oubliez pas Deleuze, parfois flanqué dans ses visites aux États-Unis, bien sûr, de Félix Guattari. Ces gens-là ont été présentés par les Américains qui les recevaient comme étant les représentants de la French Theory. Alors, on expliquera tout à l'heure, on essaiera de traduire, puisque c'est le principe de cette émission. Il faut situer quand même dans les 50 dernières années, et si on commence donc aux années de la fin de la guerre du Vietnam, il y avait un espace libre dans la vie intellectuelle américaine dans laquelle ont pu s'engouffrer ces représentants des sciences humaines françaises.
C'est ça, il y avait un espace libre dans la vie politique américaine et même peut-être aussi dans la vie politique globale et donc française aussi, hein, qui fait que ces espaces ont pu finalement coïncider ou en tout cas être relativement parallèles. C'est un espace qui s'ouvre en gros entre une pensée, bon, on va dire libérale pour aller vite, et puis une pensée communiste de l'autre. Il y a un espace, une sorte de troisième voie, mais alors pas au sens de Tony Blair pour le coup.
Ah, parce que c'est des radicaux en même temps.
Ce sont des radicaux, voilà. Ce sont des gens qui ont lu Marx, mais qui ne sont plus marxistes au sens traditionnel et classique.
Et le libéralisme, curieusement, dans les universités américaines, n'a pas l'influence qu'on pourrait lui supposer.
Alors, les universités américaines, quelques années avant de recevoir la pensée française et puis de la transformer, sont des universités qui ont été profondément bouleversées. Elles vont être parmi les derniers lieux dans lesquels une politique radicale qui a été assez violemment réprimée dans la rue, hein, donc je pense à la lutte des minorités noires, des minorités sexuelles, des femmes également, et bien toutes ces luttes qui ont été réprimées vont trouver refuge finalement dans les universités, ce qui fait que la pensée libérale, au sens le plus classique du terme, n'y est assez peu en vogue finalement.
On va expliquer peut-être ce que c'est la French Theory, mais peut-être pour retarder ce moment qui va être abscon et byzantin, il faut dire que parfois, ces Français se sont introduits par les milieux artistiques et alternatifs. Deleuze et Guattari ont fait une soirée avec Bob Dylan.
Oui, alors il y a des rencontres qui ne sont pas effectivement uniquement des rencontres intellectuelles et des colloques, il y a des rencontres entre artistes, il y a des rencontres avec des artistes d'ailleurs qui font partie des avant-gardes du rock'n'roll et autres. Et donc il y a toute une vie faite de voyages, faite de rencontres à travers des passeurs, qui va bien au-delà des colloques.
Alors French Theory, c'est nécessaire pour l'exportation, puisque vous employez ce mot, d'avoir des labels. Alice Kaplan nous parlait du premier voyage de Camus aux États-Unis en 1946. Il avait été présenté par son éditrice comme existentialiste, alors qu'il ne l'était pas. French Theory, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors ça veut dire beaucoup de choses, c'est bien ça le problème. Alors en France, on a repris le terme suite à un livre de François Cusset qui a réécrit cette histoire finalement qu'on pensait connaître et qu'on ne connaissait pas. C'est un terme qui est bien évidemment anglais et américain. C'est une manière commode finalement de mettre ensemble un certain nombre d'auteurs qui se sont trouvés être nés en France et dont le français est la langue d'écriture principale, de les mettre ensemble parce qu'on pense à tort ou à raison qu'ils disent quelque chose qui fait sens de manière relativement cohérente.
Ils sont critiques. Ils déconstruisent pour une partie d'entre eux. Le passage succède dans les universités, ça se fait par les départements de littérature comparée. C'est de la philosophie littérarisée, dit François Cusset.
C'est ça. Alors assez paradoxalement, alors que c'est pas des gens pour la plupart, alors à part peut-être Derrida, qui sont au départ des spécialistes de littérature, hein, mais même Derrida est en réalité philosophe, ce sont des gens donc qui appartiennent à la philosophie, qui appartiennent aux sciences sociales, Bourdieu évidemment et la sociologie, et qui vont être reçus à travers une autre discipline, hein, qui est la littérature comparée, hein, qui connaît à cette époque-là, en fait, un certain nombre de transformations.
Star à Berkeley dès les années 70, voici un enregistrement de lui dans les années 80, où on va s'apercevoir qu'il n'y a pas besoin d'avoir un accent meilleur que celui de François Hollande pour avoir du succès aux États-Unis.
Comment les êtres humains se construisent-ils en tant que sujet? Michel Foucault fait actuellement des conférences au sein du département français de la faculté. Michel Foucault nous parlera ce soir et demain, il répondra à des questions en anglais. Il n'y aura pas de questions ce soir. Les questions seront posées lors d'une discussion à laquelle vous êtes invité demain à 16h dans le bâtiment 102.
Heureusement, que ce soit en français, en anglais ou en allemand, j'ai oublié le nom de ce genre de professeurs. Dans l'Antiquité, on les appelait des philosophes.
Il est dans un département de littérature. Il a beaucoup de succès dans ces dernières années de sa vie parce qu'il entrecroise sa quête du souci de soi avec la quête de l'individu fondamentale aux États-Unis.
Oui, alors et c'est peut-être ça fait partie sûrement des mécompréhensions créatrices. Hein. Effectivement, il est dans une réflexion sur qu'est-ce qui fonde le sujet et ce sujet, on peut le comprendre aux États-Unis. C'est peut-être pas forcément ce que Foucault dit, mais c'est peut-être aussi ça comme une forme d'individualisme, oui.
Alors dans le train, il y a un wagon qui est raccroché plus ou moins artificiellement. C'est celui de Pierre Bourdieu. Il ne ressemble pas nécessairement aux autres qu'on a cités jusque-là. On va l'entendre ici, en 1992, il est avec Pascal Casanova, qui elle aussi a beaucoup enseigné aux États-Unis, au micro de France Culture. Et vous allez voir que le mot « exportation » que vous avez utilisé tant de fois est justifié par Pierre Bourdieu, qui en trouve un encore plus étonnant.
La question de l'exportabilité des concepts est tout à fait centrale. Par exemple, la notion de capital culturel que j'ai forgée pour les besoins de la compréhension, de bizarrerie, de statistiques, etc., etc. Bon, a été exportée, je veux dire, actuellement dans le monde entier, moyennant quoi on introduisait, sous apparence d'une technique, l'indépendance statistique, on introduisait la philosophie de l'égalité parfaite, et ces modèles venaient d'Amérique. Mais ils donnaient l'Amérique en modèle, tacitement. C'était, regardez la mobilité américaine, etc. Nous, Européens, nous sommes englués, les Américains d'ailleurs le disaient, nous sommes englués dans des vestiges aristocratiques, il y a encore des rapports de reproduction, etc. Bon, eh bien, la notion de capital culturel, fonctionnant aux États-Unis, a changé complètement la façon de percevoir le système américain, et pratiquement chaque semaine, je reçois, avec des dédicaces très gentilles, des livres de jeunes sociologues américains qui trouvent, évidemment, qu'aux États-Unis, les mécanismes que j'ai décrits pour la France sont validés, et encore plus, puisque il n'y a pas seulement les effets du capital culturel, il y a en plus les effets du capital économique, et qu'il faut payer très cher ces études. Donc voilà.
Capital culturel, domination héritée, Bourdieu parle de ça dans les campus américains, et lui aussi il voit que ça peut rencontrer des préoccupations chez les jeunes américains, parce que, contrairement à ce qu'on pense, la question de l'égalité, elle est centrale aussi dans l'histoire américaine.
Ah bah elle est centrale depuis très longtemps. En réalité, c'est une des références fondatrices de la tradition politique américaine. Et puis, elle est centrale depuis les années 60-70 aussi, parce qu'elle a rebondi, elle s'est reconfigurée à la faveur de ces luttes pour les minorités ethniques, sexuelles, etc., dont on parlait tout à l'heure. Et donc, elle peut trouver, Bourdieu est un exemple, mais il y en aurait d'autres, à travers des relais français, à travers des références françaises, une manière de s'alimenter et de rebondir.
French theory, c'est un mot anglais, un mot américain. C'est qu'il y a tout de suite appropriation et, vous dites dans votre vie des intellectuels, Thomas Brisson, reconfiguration. Parce que ce qu'apportent les Français va être transformé, réégurgité autrement par les Américains dans toutes sortes de spécialités qui naissent sur les campus. Alors je vous fais grâce des subaltern studies, des gender studies. Peut-être pourriez-vous nous parler des postcolonial studies. parce oui. que c'est votre spécialité.
Ça fait partie des choses qui m'intéressent, en tout cas. C'est vrai qu'assez paradoxalement, donc ces post-colonial studies, ces études post-coloniales dont on dit à juste titre qu'elles déconstruisent l'Occident, qu'elles cherchent à voir quels sont les biais proprement, on dit que les biais culturels qu'il y a, si vous voulez, derrière une pensée qui se veut universelle, mais qui est en réalité née en Occident, eh bien, cette pensée anti-occidentale, elle trouve un certain nombre de références dans des textes occidentaux, et en particulier dans des textes français.
Vous pouvez donner un exemple ?
Edward Said, qui est considéré à juste titre comme l'un des fondateurs des études postcoloniales, sa grande référence, l'une de ses grandes références, est Michel Foucault.
Ouais. Et il a vécu, Said, en France, et beaucoup enseigné aux États-Unis. Ça se complique d'ailleurs maintenant... L'influence française aux États-Unis est continue. Ce sont toujours les auteurs que vous venez de citer qui, au grand dam de Monsieur Darcos, sont encore les plus traduits. Mais viennent sur les campus américains des Chinois, par exemple, des Indiens, d'autres Arabes qu'Edward Said. Vous êtes en train de travailler là-dessus. Vous pouvez nous raconter comment tout ça s'en mêle, plutôt.
Je travaille là-dessus. C'est une idée, si vous voulez, qui est... que l'on connaît depuis longtemps, mais qui a jamais été vraiment analysé comme tel, qui est que très souvent, les critiques contre l'Occident sont le fait d'intellectuels qui vivent en Occident, et en particulier qui vivent dans les cœurs au cœur de la puissance occidentale. Un certain nombre de pensées anticoloniales se sont élaborées chez des intellectuels qui vivaient à Paris ou à Londres du temps des empires coloniaux, et aujourd'hui, un certain nombre de pensées, on peut dire anti-occidentales, ça serait un peu rapide, mais disons ça, s'élaborent à travers des intellectuels qui vivent au centre de ce pays qui est dominant en Occident, qui est
les États-Unis. Chinois, parce qu'il y a beaucoup de spécialistes des États-Unis en Chine, mais aussi beaucoup de Chinois aux États-Unis, qui inventent un nouveau confucianisme. Et puis les Indiens, qu'est-ce qu'ils apportent au post-colonial studies ?
Alors, il y aurait des Chinois avec un nouveau confucianisme. C'est pas une pensée qu'on dit post-coloniale au sens propre du terme, mais c'est une pensée qui effectivement s'élabore chez des gens qui ont vécu une forme de rupture intellectuelle suite aux impérialismes et aux colonisations européennes en Asie. Quant aux Indiens, ce sont en grande partie des gens qui ont commencé leur carrière autour de Delhi et de Calcutta, et qui après ont migré aux États-Unis, qui ont été recrutés par les universités américaines, et qui, une fois aux États-Unis, eh bien, ont trouvé paradoxalement le lieu d'une mise en question de la puissance occidentale.
Allez, on finit avec une dernière question, avec des chiffres et pas trop de concepts, Thomas Brisson. Aujourd'hui, le point sur la situation de l'influence française peut se mesurer par la présence sur le net, c'est quoi ?
Je crois que c'est un peu moins de 5%, 4,5% de l'Internet.
Attention, c'est la troisième position.
Et c'est la troisième position.
Ouais. Mais les Anglais, l'anglais c'est 45%, mais l'anglais c'est pas la majorité. Les traductions, le 30 septembre c'est la Saint-Jérôme et la journée nationale de la traduction.
Alors français est aujourd'hui en deuxième position, mais c'est 10% des traductions. Là qu'on peut opposer aux 60% de l'anglais. Et rappeler qu'il y a encore 15 ans, l'anglais ne pesait que... pour ainsi dire 45%, donc vous voyez, la place de l'anglais s'est considérablement accrue.
Les diplômes dispensés à des étrangers dans les universités françaises, si on compare avec les États-Unis ?
Alors la France est toujours le troisième ou la quatrième puissance en termes
d'accueil d'étudiants étrangers,
absolument. C'est vrai que comparé à il y a quelques années, maintenant quelques décennies, ce n'est plus tout à fait le même type d'étudiant qui vient. En gros, ce qu'on appelle les élites globalisées vont aux États-Unis, mais elles y vont essentiellement pour acquérir des diplômes dans un certain nombre de disciplines restreintes, le business, les mathématiques appliquées à l'économie ou à l'informatique, etc. Tandis qu'en France, va venir un public qui est un public moins riche, si vous voulez, appelons-le.
Ah bah c'est ça l'attractivité de Paris 8 et de l'université française.
Alors c'est lié au fait qu'on est encore effectivement un grand pays intellectuel, si l'on veut, dont les universités sont publiques et quasiment gratuites.
Oui, c'est un facteur d'attractivité, ne l'oublions pas. Merci à vous Thomas Brisson. Je rappelle que vous avez collaboré à La vie intellectuelle en France, les deux volumes qui sont publiés par Christophe Charles et Laurent Jean-Pierre aux éditions du Seuil. L'émission était préparée par Franck Olivard et Linka Negulesco, avec à la réalisation Valérie Astaraï et à la technique David Federman. Ah, qu'est-ce qu'il y a au programme d'Alléchant dans la tête au carré.
De l'amour, Jean, de l'amour, mais sur Internet, les rencontres sur Internet. Sommes-nous dans le degré 2.0 de l'amour ?
Donc le rendez-vous réel avec Mathieu Vidard, c'est dans peu d'instants. Il est 14h, vous écoutez France Inter.